Ça ne va pas être très compliqué. L'apport biblique va être simple, mais en même temps, l'évangile, c'est simple. Mais ce n'est pas le message qui fait que simple ou pas simple permet qu'on connaisse ou on saisisse la grâce de Dieu, mais c'est notre foi en réaction à ce que Dieu dit et ce que Dieu opère. Ce matin, le titre de mon message, c'est la table du roi. On est convié à la table du roi. Et je voudrais voir plusieurs aspects assez rapidement, en quelques minutes, pour nous parler de cela. Je ne sais pas si tu peux enlever peut-être un tout petit peu le retour, s'il te plaît, parce qu'il y a une sorte de résonance, peut-être que vous n'entendez pas. Je t'en remercie. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à prier, si vous voulez bien, afin que je puisse vraiment être concentré sur ce que je dois partager et que vraiment le nom du Seigneur soit élevé. Merci. Merci, notre Père. Quand nous considérons ce que nous venons de voir et toutes ces informations qui nous sont données, nous te disons que tu es grand, notre Dieu. Mais nous sommes aussi pleins de compassion, de soutien dans la prière pour ces bien-aimés, nés dans l'action. Fais-nous grâce pour ne pas oublier ce que tu fais, tes œuvres t'acclament dans ce monde tout entier. Et nous te demandons vraiment que plusieurs soient encore touchés par l'Évangile. Merci pour tout ce qui est fait, de droite et de gauche, pour que le nom de Jésus soit élevé. Merci pour tes grâces et tes bontés. Et pour nous ce matin, nous croyons que tu veux, Seigneur, nous donner une parole de vie, une parole puissante, glorieuse. Remplis mon cœur, Seigneur, remplis nos cœurs à tous. On a faim, soif de toi, et que tu sois glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. La table du roi. La Bible révèle que quand on prend la scène, elle révèle ceci, on mange à la table du Seigneur. Alors attendez, j'essaie de trouver ce qui résonne. C'est peut-être mon cerveau qui résonne. Non, c'est passé. Voilà, c'est bon, merci. La Bible révèle ceci, et vous connaissez ce passage. Lors donc que vous vous réunissez, je vous ferai lire tout à l'heure quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu ? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ? Donc Paul écrit aux Corinthiens et dit ces choses. En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, et ça vous rappelle beaucoup de choses, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Puis j'arrête là, parce que ces choses, nous les connaissons par cœur. Et puis, un chapitre auparavant, dans 1 Corinthiens 10, il dit ceci, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et ça c'est Paul qui dit cela, et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Il parle du fait de ne pas être compromis dans tout un tas de pratiques, etc. Et ce n'est pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'est la table du Seigneur, la table du roi. Et quand on parle, on dit, on prend le pain, la scène, on dit, on prend un repas. En fait, ce n'est pas un repas, c'est un symbole de repas, bien évidemment. Et vous savez très bien que le sang représente ce que Jésus, le sang de Jésus, le vin, pardon, représente le sang de Jésus. Et le pain représente sa chair brisée pour chacun d'entre nous. Et Jésus dit un jour, si vous ne mangez ma chair, vous ne pouvez hériter du royaume de Dieu. Alors ils étaient offusqués, manger sa chair. Et pour eux, il y avait une notion peut-être de cannibalisme. Mais quand Jésus dit cela, on comprend très bien qu'il ne parle pas qu'il fallait qu'il soit mangé, dévoré, mais qu'il puisse être convaincu que sa vie était livrée pour chacun. Voilà, bon. Je vais aller assez vite, parce que je voudrais m'arrêter sur quelque chose de particulier. Alors, bien sûr, on prend le pain et le vin, et peut-être vous dites, mais moi, je ne peux pas le prendre. Pourquoi eux, ils peuvent le prendre et pas moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en vérité, on peut prendre le pain et le vin, selon la Bible, quand on a contracté, scellé cette alliance avec le Seigneur. Ceci est ce sang est le sang de ma nouvelle alliance, c'est le symbole de la nouvelle alliance. Et quand Jésus enseigne la scène, il communique cela à ses disciples parce qu'il croit en lui, il croit qu'il est le Fils de Dieu, il croit qu'il est venu. Et quand il demande, il initie la scène, bien sûr il le fait avec ceux qui croient. C'est pour cela que nous vous invitons, quand vous ne prenez pas la scène, ne soyez pas offusqués, parce que vous pouvez la prendre un jour, bien sûr, dans la mesure où vous vous engagez avec Dieu personnellement. Et ça, c'est une réalité. On la pratique tous les dimanches, même si des fois on n'a pas pratiqué tous les dimanches. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est la table du Seigneur. Et quand on est à la table du Seigneur, on veut, comme il a été dit ce matin, se rappeler de sa victoire, de son autorité, du tout accompli. On ne veut pas oublier, jamais oublier, ce que Jésus a fait pour nous, parce qu'un jour, nous serons avec lui dans le ciel. Mais je voudrais maintenant vous amener bien plus en amont, dans les années 1048 avant Jésus-Christ. Hein. Et c'est un temps où nous savons qu'il y a le second roi qui arrive au trône, c'est David. Le premier roi, Saül, qui a été le premier roi du peuple. Voici que Saül, pour plusieurs raisons, va être, entre guillemets, disqualifié par Dieu. Et je vous invite à le lire vous-même dans le livre de Samuel. Et ici, nous arrivons donc au moment où le roi David est devenu roi. C'est-à-dire qu'il a été un roi plusieurs mois auparavant. Mais il n'était pas roi, il y avait encore Saül qui était sur le trône. Et puis à plusieurs occasions, il aurait pu, David, évincer Saül, le tuer même, et il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne voulait pas le faire de lui-même, il voulait que Dieu le fasse, afin de ne pas être un problème et s'opposer à Dieu. Maintenant, il est le roi de Juda, et après il devient le roi d'Israël, dans notre récit qu'on va voir. Il a été roi en Juda, hein, vous savez que c'était pas... Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne voudrais pas me perdre. Le roi de Juda, et il est aussi roi d'Israël. Et au moment où il est là, il va s'emparer de la ville de Jérusalem. Jérusalem n'est pas encore acquise au peuple hébreu, et n'est pas la capitale encore. Il y avait les Jébusiens, c'était une sorte d'ethnie qui était là, qui vivait à Jérusalem. Hein, et voici que David va s'emparer de Jébus, hein, donc il va appeler la ville Jérusalem, hein, qui est aux mains des Jébusiens. Les Philistins, qui sont les ennemis jurés depuis longtemps du peuple hébreu, voici qu'apprenant que David fait ça, et est en marche sur Jébus, vont venir avec leur armée pour se confronter, pour avilir, pour dominer le peuple d'Israël. Hein. Et puis, ils viennent se battre contre lui. Et David, qui est au début de sa royauté, est certainement un petit peu... ça, on peut le déduire, mais je ne dis pas que c'est dans la Bible, je ne sais pas. Et certainement, comment il s'interroge, comment on va se battre, qu'est-ce que faut-il faire? Alors il consulte Dieu, et c'est ce qu'il fait de bien, et David a souvent eu ce réflexe, même s'il sait pas, il a fait des fautes, il a souvent eu ce réflexe et cette bonne décision de toujours consulter Dieu. Il consulte Dieu, et voici, Dieu lui dit, ben, tu passes par derrière, et tu restes là, et quand tu seras vis-à-vis d'eux, près des mûriers, c'est des arbres qui sont là, tu entendras des bruits de pas dans les cimes des mûriers, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et lui, il obéit avec son armée, parce que peut-être en face c'était une armée conséquente, il obéit, et voici que c'est une victoire éclatante, parce qu'il obéit à ce que Dieu lui dit. Je fais un résumé pour vous planter le contexte, hein, peut-être vous dites pourquoi il dit tout ça, vous allez voir, on va arriver à un autre sujet. Quelques mois après, dans sa maison, il est là, dans sa maison, dans son palais, et puis il se dit, mais comment ça se fait que moi j'ai une maison? Et puis finalement, Dieu, il n'a pas de maison, quoi. Et il a ce plan, ce dessein, à cœur de bâtir une maison à Dieu. Et ça va être, vous savez très bien que ce n'est pas lui qui va le faire, et c'est son fils, Salomon, parce que lui, il a eu beaucoup de guerres, etc. Mais il convoque le prophète Nathan, et il dira, voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu, hein, l'arche de Dieu, habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Voilà, ça va, je recommence par le contexte. Maintenant, on va aller dans 2 Samuel, chapitre 9, ensemble. 2 Samuel, chapitre 9. Un récit qui est parlant, comme beaucoup de récits de la parole. 2 Samuel, chapitre 9, on va lire tout le chapitre. Il n'est pas très long. Et je vous invite à vous focaliser sur les événements qui se passent là. Vous les connaissez pour plusieurs, hein, mais c'est bien de se les rappeler. 2 Samuel, chapitre 9. Et avant de commencer, dites à votre collègue, si vous le voulez, et écoute bien, parce que tu as besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Hein. Mais ouais. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ?» Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire que Saül et Jonathan étaient morts. Et ça a été terrible, et David va faire un cantique funèbre. Mais là, nous arrivons à cela. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, c'est-à-dire handicapé. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth, et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours où ? À ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. On s'arrête là. Hein, la lecture était longue, mais ce récit est toujours... j'aime bien ce récit, j'ai toujours aimé ce récit, comme beaucoup de récits. J'ai l'impression de le dire tous les dimanches, la même histoire. Mais, on aime le récit, les récits bibliques, ça nous parle, ça nous touche. Moi, ce qui me touche le plus dans ce récit, c'est le fait que ça illustre bien cette bienveillance qu'a David à l'égard de la descendance de Jonathan. Ça illustre bien ce que la bienveillance que Dieu a à notre égard. Je m'explique. Méphibosheth, il a existé, il a vécu, et il est boiteux parce qu'il a été, lâché par une nourrice alors qu'elle fuyait, et que ses frères étaient tués, frères et sœurs étaient tués, et elle veut cacher l'enfant, et en partant, l'enfant tombe, et de ce fait, a été un petit peu boiteux à vie. Hein. Et voilà que maintenant, Saül est mort, Jonathan, le père de Méphibosheth, est mort, et généralement, les rois, d'habitude, ils ne se fatiguaient pas trop, ils récupéraient les descendants, on en faisait plus, on les supprimait rapidement pour être tranquille et avoir la royauté pleinement. Et bien sûr que quand David appelle Méphibosheth à venir vers lui, vous imaginez la tête de Méphibosheth. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il m'appelle? Va-t-il me faire, va-t-il me supprimer? Va-t-il me faire des reproches? Que va-t-il faire? Et une inquiétude qui est là. Et il s'approche donc de David. Il vient tant bien que mal vers David. Et David, on voit, il va exercer une bonté certaine à l'égard de Méphibosheth. Il lui donne, tu manges toujours à ma table, il lui donne les biens de son père, de Jonathan, il lui rend, hein, et il donne des serviteurs, il donne tout ce qu'il faut. Et ça, ça nous parle de ce que Dieu fait, et ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Nous, nous ne sommes peut-être pas boiteux physiquement, et encore, vous l'avez vu l'autre fois, hein, on ne sommes peut-être pas boiteux physiquement, mais nous étions boiteux à cause du péché. Et David est bien sûr le fils de David, comme vous le savez très bien dans la Bible, il fait mention que viendra et prophétiser que viendra, en la personne de Jésus, le fils de David, un descendant de David qui sera par lequel viendra le Messie. Et en effet, quand on regarde la lignée de Jésus-Christ, les ancêtres de Jésus, David est mentionné d'une manière très précise concernant étant un ancêtre de Jésus-Christ. Et la bonté que David manifeste à l'égard du fils du roi, du petit-fils du roi, est une bonté extraordinaire. Et Dieu, dans son amour, veut inviter tous les êtres humains à aller dans sa présence, à manger à la table du roi. C'est-à-dire à manger à cette table, à connaître la grâce de Dieu et à connaître la vie. David veut lui faire du bien et lui-même, cet homme-là, voici, qui dit « Mais qui suis-je, moi? Je suis comme un chien, tel un chien mort. Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Et il avait une drôle opinion de lui-même. Et vous savez, quand on est dans le péché et qu'on vient à la grâce de Jésus-Christ, eh bien, on se sent tellement misérable, tellement mal, on se sent tellement perturbé dans nos têtes en disant « Mais je suis
Quel pécheur je suis. Et on a du mal à comprendre la bonté de Dieu, la révélation de Dieu pour nous. Et alors on peut dire, mais ouais, mais je ne mérite pas. Mais on ne mérite jamais. Le péché, c'est le péché. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, dans son amour, a voulu nous faire grâce en Jésus-Christ. Et alors que nous étions boiteux dans nos cœurs, Dieu est venu et en Jésus, il nous dit, je t'invite à manger la table du roi. Je t'invite à manger ma table. C'est-à-dire, je t'invite à venir et on va voir ce que ça veut dire plus précisément tout à l'heure. Et ce matin, peut-être, il y a quelques amis qui vous connaissez des choses sur Dieu. Mais est-ce que vous avez été vraiment, vous êtes approchés de la table? C'est-à-dire, êtes-vous convaincu que Jésus vous a pardonné de vos péchés? Et ce qui fait que vous pouvez manger à sa table, ce n'est pas parce que vous le méritez, c'est parce que vous reconnaissez que Jésus est le Sauveur, votre Sauveur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu envers tous les hommes. Tous les hommes, tous les êtres humains sont invités à manger à la table du roi, c'est-à-dire à venir dans la présence de Dieu, en Jésus-Christ. Dans la Bible, j'ai failli partager ça, mais je n'ai pas travaillé ça, mais il y a tant d'appels de Dieu. Tant de moments où Dieu appelle les êtres humains. Il les appelle de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va parler, il va toujours essayer de rattraper le peuple d'Israël qui s'égare. Il va appeler des nations. Il va chercher à amener les gens à s'approcher de lui. Et il est patient, il va user de patience. Des fois, il va user d'éducation. Hein, il va reprendre ce qu'il aime, il les reprend, il les châtie. Et il va vraiment amener un appel, il va lancer un appel parlant à toute l'humanité pour que les hommes viennent vers lui. Et d'ailleurs, si Jésus n'est pas encore revenu, on a dit tout à l'heure, et c'est vrai, on sait que Jésus va revenir bientôt. Mais s'il n'est pas encore revenu depuis des siècles, hein, c'est qu'il veut encore sauver. Il veut encore sauver. Et plaise à Dieu qu'ici, vous tous, nous tous, nous soyons sauvés par la grâce de Dieu. Oui, on est boiteux, mais on peut manger à la table du roi. Parce que Jésus, lui, nous rend libres et nous purifie de tous nos péchés. Il nous transforme, il nous fait grâce. Il y a des fois des personnes qui me disent, mais moi, vous savez... Moi, tout ce qui est religieux, c'est pas pour moi. Et vous avez raison, moi non plus, c'est pas pour moi, tout ce qui est religieux. Ça sert à rien, la religiosité. La pratique pour la pratique. Ce qui sert, c'est que le cœur soit vrai avec Dieu et que je reçoive par l'Esprit de Dieu ce que Dieu veut faire dans ma vie. C'est ça, la vraie foi. C'est pas la pratique par la même... Excusez-moi, je pourrais pratiquer plein de choses et ça changerait pas mon cœur. Mais celui qui change le cœur... Celui qui change notre vie, c'est Jésus qui transforme nos cœurs et qui nous libère de nos péchés. Alors ça veut dire quoi manger à la table du roi? Est-ce qu'il a mangé à la table du roi d'ailleurs, Mephibosheth? Oui, non? Oui, vous êtes sûr? Vous avez raison, ça va, soyez rassurés. Hein, vous avez raison, il nous a dit qu'il a mangé, habité à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, il était boité de deux pieds. Ça c'est la fin du chapitre. Il mangeait toujours à la table du roi. Après, Mephibosheth, par la suite, ça n'a pas été glorieux. Hein. Vous lirez son histoire. Ça n'a pas été... Il y a eu un problème. Comme quoi, on peut connaître la grâce de Dieu et des fois, on peut se mettre tomber et chuter. Mais bon, voilà, c'est pas là le sujet. Le sujet de ce matin, c'est qu'on est tous invités à la table du roi. Et si tu penses que tu ne mérites pas, comme lui qui dit « je suis comme un chien mort », sache que tu as raison, tu ne mérites pas. Mais par contre, l'amour de Dieu se reçoit. L'amour de Dieu n'est pas lié à ce que je suis, il est lié à ce que lui, il est. Et l'amour que Dieu veut me manifester, il est le même pour chacun d'entre nous. Alors même si vous vous sentez, excusez-moi, moins que rien, vous sentez vraiment méprisable et vous avez eu un passé chaotique, un passé qui est peut-être des plus dramatiques, et vous sentez vraiment mal en point, beaucoup de culpabilité, etc., sachez que la grâce de Dieu, elle est là pour nous libérer de toutes ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus nous-mêmes, ça veut dire qu'au contraire, on est libéré, que c'est plus « je mérite ou je ne mérite pas, et je ne mérite qu'une condamnation », mais c'est « je reçois l'amour de Dieu ». Ici, lui, il ne comprenait pas pourquoi David avait aussi autant de bonté, si ce n'est qu'il était le fils de Jonathan, il ne comprenait pas. Mais il a quand même mangé la table du roi. Et vous savez, la grâce, c'est justement une faveur imméritée, et c'est ce que Dieu veut faire dans nos cœurs. Alors cela veut dire quoi manger à la table du roi? Bon, ici on se comprend, c'est manger bien sûr la nourriture au quotidien pour pouvoir assumer, je dirais, que notre corps fonctionne. Mais dans la Bible, il y a des images qui sont données par rapport à cela. Et la première, on va la retrouver dans le prophète Ésaïe. Venez avec moi dans le prophète Ésaïe, un peu plus loin, au chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Vous allez retrouver toujours cette notion de prendre et de manger, de boire. Et c'est toujours là aussi un appel de Dieu, c'est toujours quelque chose qui est mentionné. Ici, le prophète Ésaïe, là nous sommes quelques 4 siècles après. « Vous tous qui avez soif, chapitre 55, venez aux eaux, pas aux eaux avec des bestioles, aux eaux. Hein. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Comment on peut acheter sans argent, c'est bien sûr une image. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. » Hein ? Ici, au verset 2, fin du verset 2, « Écoutez-moi, dira Dieu, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Succulents. Hier, à la réunion de jeunesse, j'ai employé un mot, il y en a deux ou trois qui se regardaient en se disant « Qu'est-ce qu'il parle ?» J'avais dit le mot « verbiage », je crois, c'est ça ? Verbiage, hein ? C'est pour eux que vous êtes avec moi, les jeunes, là ? Ouais, d'accord. Verbiage. Et j'ai compris que le mot verbiage s'était déplacé. Et ici, il y a des mots anciens, peut-être, qui sont un peu. Qui sont plus usités, utilisés dans notre langage. Et de ce fait, on peut ne pas percevoir pleinement le contour de ce que Dieu veut nous dire. Et aussi, permettez-moi de rappeler ce que c'est. Hein. Ici, c'est possible de se délecter des mets succulents, se délecter de quelque chose. Hein, vous savez, quand vous invitez quelqu'un, normalement, vous lui préparez un repas, normalement. Vous ne lui donnez pas juste une feuille de salade. Sois le bienvenu. Hein, d'ailleurs, je les invite à midi. Vous aurez la salade et nous mangerons autre chose. Hein. Mais c'est possible de se délecter de mets succulents, même dans les situations compliquées. Se délecter de quelque chose, c'est savourer, c'est prendre du plaisir. Et quand la Bible dit ici, « Écoutez-moi donc, vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents », Dieu promet, il est engagé par sa parole, Dieu promet à celui qui écoute Dieu, celui qui accepte de le suivre, celle ou celui qui désire vraiment comprendre ce que Dieu nous dit, il va être rassasié dans son cœur, dans son âme, pas dans son corps, même si on mange sa nourriture, mais dans son cœur. Je ne sais pas comment le dire, mais de l'extérieur, quand on regarde ceux qui croient en Dieu, on peut dire, mais ils sont timbrés. Excusez-moi, c'est pas bien. Ils sont pas bien, quoi. Ils ont le ciboulot qui fait le yo-yo. J'ai besoin de me défouler, vous l'avez compris. Hein, donc, mais ne rajoutez pas, s'il vous plaît, ne riez pas. Et voilà, vous m'avez perdu, c'est votre faute. Non, c'est moi qui me perds. Hein. Vous voyez, de l'extérieur, ça paraît... comment ça? On peut croire en Dieu, on peut être heureux, on peut être bien, on peut être satisfait intérieurement? Ben oui, parce que la Bible le dit, et parce que c'est une vérité. S'approcher de Dieu, se repentir et recevoir la grâce de Dieu, c'est vivre maintenant dans la présence de Dieu. C'est accepter de manger à sa table, pardon pour l'image. C'est-à-dire, c'est accepter de communier. Et quand on mange avec quelqu'un, généralement on parle, on discute. Et quand Dieu nous invite à nous rassasier de mets succulents, nous délecter de ces mets succulents, c'est pas des théories, c'est pas des pensées stupides, c'est des vérités tellement profondes. Vous savez, je vous donne un exemple. Par exemple, la Bible dira que l'amour de Dieu, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand, vous savez, vous êtes pas et qu'on n'est pas toujours en forme, ou qu'on est dans des problématiques un peu compliquées de relations humaines, soit on essaie de se dépatouiller comme on peut, soit on peut aussi dire, ben, je n'y arriverai pas, et c'est compliqué pour moi, et mes sentiments sont tellement déchirés, mais je viens chercher ton amour, Seigneur. Je viens, tu l'as dit, tu es engagé par ta parole, je crois, que si j'ouvre mon cœur à toi, tu remplis mon cœur, tu me délectes de ton œuvre, et tu vas me donner de faire face à cette situation par ton amour. Vous voyez que les mets succulents que le Seigneur veut nous donner, ce n'est pas des théories, ce n'est pas des pensées très philosophiques, c'est des pensées pratiques, actuelles, bonnes, en adéquation avec la situation, et Dieu nous fait grâce. Et il y a des mets succulents. Et j'ai envie de nous dire, de me dire, « Eh mon gars, parfois, va chercher un peu plus les mets succulents, délecte-toi de ce que Dieu veut faire. » Reçois de lui ce qu'il veut te communiquer. On peut recevoir de lui sa sagesse. On peut recevoir de notre Dieu tout un tas de réalités qui nous échappent. D'ailleurs, Dieu vit en nous par son esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est toutes les vertus que Dieu veut nous donner dans notre caractère, qu'on n'a pas inné. Hein. Chez nous, notre caractère était plutôt, en tant qu'être humain, teinté de péché, teinté de colère, teinté de jalousie, d'envie, etc. Mais quand Dieu travaille nos vies et qu'il pardonne nos cœurs, qu'il nous délecte de sa grâce, là-dedans, tout change. Tout change, mais tout change en bien. Hein. J'espère. Hein. Sinon, il faut qu'on se voit. Hein. Tout change en bien, par la grâce de Dieu. Et si un jour, David, il se retrouve dans le désert, il est poursuivi, vous savez, quand ça a eu le pourchasse, et au psaume 63, alors je suis perdu dans mes notes, ouais, psaume 63, il va dire ceci, il nous est dit au verset, je vous lis quelques versets, lorsqu'il était dans le désert de Juda, il va dire, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alors non seulement il est dans le désert, mais la situation est catastrophique et désertique pour lui, parce que ça fait un moment que ça a eu le pourchasse. Ainsi, il s'arrête et puis il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent les louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulent. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche se célébrera. Bien sûr, c'est poétique, mais c'est une vérité. Il est pourchassé. Et plusieurs fois, Saül a failli l'éradiquer de la planète. Hein, a failli le tuer. Plusieurs fois, les circonstances ont fait que, par la grâce de Dieu, tout s'est pas présenté favorablement pour qu'il soit tué. Et tant mieux, parce que Dieu avait un projet pour lui. Et il est là, en situation compliquée, puis il va se confier en Dieu. Et puis là, il dit, voilà, je reçois, hein, quelque part, il dit, mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Pourtant, ce n'est pas le moment le plus intéressant pour lui. Ce n'est pas un moment favorable, tout va bien, alléluia, amen, tout va bien. Non, 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 c'est un moment compliqué pour David. C'est un moment terrible. C'est un moment de... beaucoup de choses sont là. Si vous lisez l'histoire de David, vous verrez, ça n'a pas été simple, hein, pour arriver à la royauté. Mais quand Dieu a décidé quelque chose, ça s'accomplit. Hein. Ça s'accomplit, parce qu'il est au-dessus de tout. Mais lui, il dit... Dans ce moment le plus terrible, il dit pas, oh, j'ai perdu, c'est fini, à tout jamais, voilà. Hein. C'est vrai qu'il y a des psaumes où des fois il va dire d'être vengé, etc. C'est compliqué. Mais il dit, mon âme sera rassasiée comme de mes gras succulents. Je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie, peut-être quelques-uns traversent des moments compliqués et vous dites, oh là là, c'est dur, pourtant je crois en Dieu, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais reviens ou continue à te tenir à la table du Seigneur. Puise en lui, c'est mes succulents. Cherche en lui. Cherche-le. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'Ésaïe 55, hein, de le chercher, de vraiment se confier en lui de tout votre cœur, parce que c'est lui qui agit. Hein. Et c'est que David dit ici dans ce psaume, ça atteste sa foi. Parce que vous savez, la foi, c'est facile de dire j'ai la foi quand tout va bien. Hein. Tout le monde peut le dire, n'importe qui. Mais quand ça ne va pas bien, c'est autre chose. Et ça démontre où elle en est, ma foi. C'est révélateur. Est-ce que ma foi, elle est ferme, ou est-ce qu'elle est vraiment frêle, au point que j'abandonne carrément les choses. David va dire aussi, dans un autre psaume, il va dire au psaume 17, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Se rassasier. Hein, c'est-à-dire se fortifier, se délecter de la présence de Dieu. Et quand David, bien sûr, ne connaissait pas, il n'était pas dans le Nouveau Testament, hein, c'est l'Ancien Testament, il ne savait pas que Jésus allait venir pour mourir pour lui, pour nous, pardon, etc. Il ne connaissait pas ça, mais malgré tout, il connaissait et il savait que Dieu pouvait le nourrir dans son cœur. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Ça, c'est une bonne expression qu'il faut nous encourager à vivre, c'est-à-dire que quand on se réveille, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me réveille, j'essaie de maximum de dire, Seigneur, tu es là, c'est vrai, tu es là. Et cette journée, ou cette nuit, ça dépend où vous vous réveillez, je veux vraiment la vivre dans la présence. Je veux me délecter de tes mets succulents. Alors, on ne le dit pas comme ça, je le dis rarement comme ça, mais on le vit dans son cœur. Et on le cherche, Dieu. Et Dieu nous fait grâce. Il dira dans un psaume 65, permettez-moi encore de donner quelques versets. « Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Alléluia. Il y aurait, à chaque verset, on pourrait prendre le temps de décliner les choses. Mais ici, il dit « celui que tu admets en ta présence ». Parce que voyez-vous,
Ce qui fait le bonheur de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions nous aller dans sa présence. Et pour cela, Jésus a payé le prix pour que je puisse aller à la présence de Dieu. Et que je puisse, voilà. Certains pensent que la présence de Dieu, c'est bien d'y venir que le dimanche parce qu'on a tellement de choses à faire. Et vous savez, justement, parce qu'on a tellement de choses à faire, justement parce que la vie est compliquée, justement parce que tout n'est pas facile dans la vie, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu tout le temps. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et même dans son travail, parce que là-dedans, parfois, ça peut être compliqué, ça peut être difficile dans mon travail, il y a des défis, mais Dieu est avec moi. Et si je vis une vie, excusez-moi, que trop alternative dans la foi, je viens que le dimanche, ou à une réunion de temps en temps pour un petit peu manger, oh, c'est bien, c'était bien, c'était bien. Ouais, ok, ok. Il y a demain aussi. Je ne vous dis pas de venir à la réunion, demain, il n'y en a pas. Hein? Mais je veux dire par là, Dieu est toujours le même. Et la table de Dieu, elle est chargée de mes succulents. Dieu a tout donné. Et il dit pas, Jésus n'a pas dit, celui qui a soif, je vais lui donner à boire. Attends, j'arrive, je te donne à boire. Non, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Que celui qui a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il mange. Et quand Dieu dit qu'il nous ouvre ces possibilités-là, vous comprenez très bien qu'il nous rend responsables de décisionnaires, je dirais, de recevoir ou pas, d'aller et de mettre ma foi en action ou pas. Parce que si je reste passif, je peux toujours dire « Oui, c'est vrai, Dieu fait ça, ouais, et toi, tu ne le vis pas. » Mais Dieu te dit, et me dit, « Viens dans ma présence, mets-toi à table, prends ce dont tu as besoin, reçois ce dont tu as besoin. » Et nous tous, nous sommes appelés à ça. Nous tous. Dans le psaume 36, il dira « Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Waouh ! Quand notre foi vacille, quand notre foi est mise à mal, quand les circonstances s'agitent et les choses nous troublent, mon frère, ma sœur, mon ami, n'oublie pas qu'il y a de l'abondance dans sa maison. Son ruisseau est toujours plein d'eau. Jamais il ne fait défaut. Il n'y a pas de sécheresse en Dieu. Au contraire, il n'y a jamais de sécheresse, ce n'est pas fluctuant. Et quand c'est fluctuant en nous, ça veut dire qu'on a besoin d'aller à la table du roi. On a besoin de venir dans sa présence, on a besoin de se confier en lui. On a besoin de le chercher. C'est pour ça que Jésus, quand il enseigne la prière, il dira « Quand tu pries, entre dans ta chambre, voilà, prie. Et là, ton Père Céleste qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. » Comme pour dire « Pourquoi tu ne viens pas ? Pourquoi tu ne viens pas te désaltérer? Pourquoi tu ne viens pas manger ce que je veux te donner? Pourquoi tu ne viens pas me chercher? C'est comme si vous aviez plein de choses à donner, énormément de choses que vous avez là, et puis vous allez partir, je ne sais pas, dans un autre pays, vous dites, bon, je vais me débarrasser de tout ça, et vous dites à des gens, bah, toi, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ça? Oui, 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 et puis ils viennent jamais. Vous vous trouvez avec tout ça, ça ne veut pas dire que Dieu est embarrassé, hein, il n'est pas embarrassé. Mais je veux dire par là que ce serait aberrant de dire « Oui, oui, d'accord, oui, c'est bien, oui, je sais, oui, j'entends bien, tu veux me donner ça, mais je viens pas. » On dirait « Mais il y a un problème. » Et Dieu a dit qu'il a, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout ce qu'il faut pour tout ce qui contribue à la vie et à la piété, dit la Bible. Et on pourrait prendre énormément de versets qui parlent du fait que Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait au-delà. Vous vous rappelez la multiplication des pains, il n'a pas fait pile-poil à la miette près par rapport au nombre. Il aurait pu, hein, parce que c'est Dieu. Non, il y a eu 12 paniers pleins de pain et de poisson. 12 paniers, pas les paniers pour, excusez-moi, pour la dinette. Hein. Des paniers, hein, d'accord. Je ne joue pas la dinette, je vous rassure. Hein. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et les abreuve au torrent de tes délices. Et la volonté du Seigneur, c'est de dire qu'en lui, nous avons tout pour être heureux au fond de nous, pour être bénis, pour être, comment dire, pour vivre sa foi à contre-courant de cette société, et sans mépriser les autres, pour autant, les aimant, ayant compassion parce qu'on était pareil qu'eux auparavant. Mais Dieu nous a fait grâce. Et ce qui fait la différence, c'est que je puise en lui cette nourriture d'en haut. Alors vous qui êtes jeune, moins jeune, vous qui êtes jeune dans la foi, ou plus ancien dans la foi, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on se donne rendez-vous, pas ici, pas qu'ici, on se donne rendez-vous dans la présence du Seigneur. On se donne rendez-vous au pied du Seigneur. Parce que Dieu veut bénir vos vies. Ça ne veut pas dire qu'il va tout permettre que tout, il n'y a pas une ombre au tableau,
qu'il n'y ait pas de soucis, ça veut dire simplement que dans toutes ces situations, Dieu sera présent. On voit dans la Bible tant de situations néfastes, tant de situations compliquées, des impasses incroyables, des choses qui sont terribles, des peuples qui sont menacés, le peuple d'Israël qui est menacé maintes fois. Je ne sais pas, il faudrait que je compte un jour le nombre de batailles qu'ils ont eues, qu'ils ont subies. Et ça nous rassurera, parce qu'on se dira finalement, encore dans notre vie, on a eu beaucoup de choses, mais on n'a pas eu le même nombre encore. Hein. Mais toutes les fois où ils se sont confiés en Dieu, toutes ces fois-là, Dieu les a aidés, les a éclairés, leur a donné le conseil, leur a donné une force particulière ou une victoire remarquable. Des fois par une poignée de personnes, beaucoup moins nombreuses, 10 fois moins ou 20 fois moins nombreuses que le peuple en face, qui était ennemi. Mais quand Dieu est dans l'affaire, on les nourrit, on les bénit. Alors notre avenir, il n'est pas, comment dire, il ne dépend pas de ce que je fais, de mes capacités, mais il dépend de ma relation avec Dieu. Parce que vous savez, il va venir un jour, et on va terminer par ce passage, on va aller lire dans l'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, on va partir du verset 4. Nous sommes dans les temps futurs, l'Apocalypse, là, dans ces temps futurs, surtout au chapitre 19, et on arrive à ce moment au verset 4, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia », et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit fort de tonnerre disant « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Voilà, j'arrête là, finalement, ça c'était par rapport à l'ange. Mais ce qui est important, c'est de voir que nous sommes là dans ce temps où un jour nous mangerons aux noces de l'agneau avec le Seigneur. Alléluia. Quand on prend ce pain et ce vin, il dira, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Hein, jusqu'à ce qu'un jour nous le prenions avec lui dans le ciel. Et ici, dans Apocalypse 19, c'est ce qui est mentionné. Alors comment ça va se passer, je ne sais pas. Ce sera extraordinaire, parce que ce sera plus, je ne marcherai plus par la foi, mais je le verrai. On l'a chanté, je suis heureux, hein, car un jour mes yeux verront Jésus. C'est vrai, on le verra. Ce sera un temps incroyable, formidable. Mais ici-bas, il me demande, moi, de venir en sa présence et de manger à la table du roi. C'est simple, hein, ce que j'ai partagé ce matin. J'espère que tout le monde a compris. Si vous n'avez pas compris, on recommence. Et quelqu'un qui n'a pas compris? Non, ça c'est un peu dur, hein. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mange à la table du roi. Tu n'es pas obligé. Il t'invite. Il t'invite. Il t'attend. Il t'attend. Comprends pour cela que Jésus a ouvert l'accès. Comprends que grâce à Jésus, tu peux être purifié, pardonné. Et alors tu peux boire, tu peux manger à la table du roi. Tu peux te rassasier, te délecter de ce qu'il te dit. Tu peux compter sur ce qu'il te dit. Tu peux vivre ce qu'il te dit. Tu peux... vivre différemment parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever, tiens. On va prier ensemble. Et alors qu'on est recueilli, s'il vous plaît, on va finir dans 2 minutes maximum. Alors qu'on est recueilli, j'aimerais vous dire, vous qui n'êtes pas encore entré pleinement dans ce que Dieu a voulu pour vous, ne vous découragez pas. Cet appel est pour vous, oui. Il t'invite à la table du roi. Et si tu n'as pas encore goûté à la grâce de Dieu et à l'amour de Dieu, ne te décourage pas, mais crois. Cherche Jésus. Et dans cette semaine, prie simplement. Demande à Dieu qu'il se révèle à toi. Lis les évangiles, l'évangile, tu verras ce que Jésus accomplit. Pour toi, et si tu ne le comprends pas, venez le mardi soir si vous pouvez. Il y a aussi l'annonce de l'évangile qui est simple, mais qui est accessible pour comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Mais pas avec la tête seulement, avec votre cœur. Nous te remercions
te remercions, notre Dieu, d'avoir autant de bonté, de bienveillance à notre égard. Que nous ne prenons pas cet amour que qui t'a fait descendre du ciel, toi Seigneur, pour venir vers nous et te livrer pour chacun d'entre nous. Mais même si nous ne le comprenons pas, nous sommes heureux de savoir qu'il y a une porte pour nous, une issue possible, favorable. Et c'est parce que tu as ouvert ce chemin d'accès, que tu es mort sur cette croix, que tu as ouvert cette possibilité, qu'aujourd'hui nous pouvons nous délecter d'aimer succulents. Permets-nous de ne pas être négligents. Permets-nous de, Seigneur, à chaque jour de nos vies, de chercher à puiser en toi la vie, cette vie pour l'âme, cette vie pour l'esprit. Fais-nous grâce en ces choses, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre petitement alors que tu veux donner pleinement. Nous ne voulons pas vivre en deçà de ce que tu veux nous donner, mais bien au contraire, nous voulons dire, Seigneur, nous avons faim et soif de toi, nous voulons te chercher. Non seulement pour obtenir, mais surtout pour être en ta présence. Parce que ta présence, c'est là notre joie, nous l'avons chanté, c'est là notre bonheur. Nous voulons, Seigneur, ta présence dans nos vies. Une présence pas que sporadique, que intermittente ou alternative, parce que te laissons dehors à certains moments, mais une présence continuelle, vivre en toi. Bénis chacun et chacune, bénis, Seigneur, nos vies. Si quelques-uns fassent dans leur foi, en ces instants, en ce jour, nous te demandons qu'ils aient cette possibilité de faire ce pas vers toi et se désaltérer dans ta présence. Merci pour tout ce que tu accordes. Bénis chacun, bénis également, Seigneur, tous ceux qui s'approchent de toi, qui cherchent à trouver le chemin. Seigneur, tu ne laisses pas à vide, tu ne laisses pas repartir à vide celui qui vient vers toi. Au contraire, tu l'orientes et tu le bénis. À toi toute la gloire. Bénis cette semaine, donne-nous d'être sérieux et de comprendre ce que tu veux nous dire. Apprends-nous à puiser en toi, Seigneur, encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne fin de journée à chacun. Soyez bénis. À bientôt.